Bonsoir à tous et bienvenue sur VOA Afrique. Il est 14h ici à Washington, 19h en temps universel. On commence par du sport en football. CHAN 2021, Cameroun 2021. Donc, la Libye et le Niger qui se sont affrontés à l'instant même, se sont neutralisés. 0-0. Et tout à l'heure, à la RDC, donc à l'instant même, va affronter le Congo voisin. C'est dans le groupe B. Et hier, rappelons que le Cameroun, le pays organisateur, a assuré l'essentiel à domicile en dominant 1-0 le Zimbabwe. C'est pas le même score que le Mali a défait les étalons du Burkina Faso. Et c'était dans le groupe A. C'est dimanche donc, comme je le disais, la Libye et le Niger se sont affrontés. 0-0, c'est le score final. Et à l'instant même, la RDC affronte le Congo. Dans le groupe B, la RCA, les rebelles sont partis de Bangassou. Ils occupaient depuis 2 semaines cette ville située à 750 km à l'est de la capitale Bangui. Les rebelles ont fui la ville dans la nuit de vendredi à samedi après avoir reçu un ultime des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Montero. Il est le porte-parole de la force de l'ONU en Centrafrique. Il assure que les forces contrôle donc la ville et reste en alerte pour réagir à toute action des groupes armés. Le président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi, et le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, ont commémoré aujourd'hui le 60e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, éphémère premier ministre et éternelle icône de la décolonisation. Dans la capitale Kinshasa, le président a visité le site qui doit accueillir la sépulture du héros national assassiné à l'âge de 35 ans. Après un parcours météorique en décembre, le président avait évoqué un rapatriement des reliques de Lumumba et un hommage lors du 61e anniversaire de l'indépendance le 30 juin prochain. C'est une information du ministère de l'Intérieur en Tunisie. Des dizaines de jeunes ont été arrêtés après des troubles nocturnes à Tunis et dans d'autres du pays, malgré un confinement général pour lutter contre le coronavirus dans le pays. Ces troubles dont les motifs exacts ne sont pas connus dans l'immédiat interviennent dans un contexte d'instabilité politique et de problèmes socio-économiques en Tunisie. Des affaires entre tribus rivales au Darfour ont fait plus de 80 morts en moins de 48 heures, selon le nouveau bilan dimanche 2 semaines après donc la fin d'une mission de paix dans la région instable de l'ouest du Soudan. Ces violences sont de plus en plus meurtrières depuis la fin, le 31 décembre, de la mission de paix conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, présente dans cette vaste région depuis 13 ans. Les autorités égyptiennes ont dévoilé dimanche au public de nouveaux trésors archéologiques découverts dans la nécropole de Saqqara, dans une cinquantaine de sarcophages du Nouvel Empire, vieux de plus de 3000 ans. Le principal opposant russe, Alexei Navalny, a été interpellé par la police à son arrivée à l'aéroport de Cheremetyevo de Moscou, où il s'apprêtait à passer le contrôle des passeports, selon des journalistes de l'AFP présents. Les services pénitentiaires russes, les FSIN, ont confirmé dans un communiqué avoir arrêté M. Navalny, à qui il reproche d'avoir violé les conditions d'une peine de prison avec sursis dont il a écopé en 2014, alors qu'il se trouvait ces 5 derniers mois en convalescence en Allemagne suite à un empoisonnement présumé. Et puis ici aux États-Unis, Joe Biden s'est engagé à signer une série de décrets dès le premier jour de sa présidence, tandis que les forces de l'ordre se mobilisent à travers les États-Unis en vue de la transition de ce mercredi. Changement climatique, pandémie, crise économique, injustice raciale et sociale aux États-Unis sont autant de crises qui nécessitent une action d'urgence, a déclaré samedi son futur chef de cabinet, Ron Klain, pour qui M. Biden veut agir vite. C'est donc tout pour ce bulletin d'information. L'info continue sur VOA Afrique, c'est sur voafrique.com. Rappel, la RDC affronte le Congo voisin. C'est dans le cadre du CHAN, dans le groupe B. Merci de nous avoir suivis.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à tous dans ce dialogue des religions. Eric Manelakidza avec vous, Lionel Lunanina Gaïma assure la mise en onde. La liberté de religion est inscrite dans la Constitution des États-Unis. Selon le premier amendement, il est interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois limitant la liberté de religion. L'article 6 rappelle et garantit le principe de la non-ingérence de l'État dans les religions et la liberté de culte. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Dans le Minnesota, nous avons le professeur Jean-Pierre Bongila. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, est avec nous. Bonsoir, ambassadeur.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes à Washington, D.C.
C'est ça.
Professeur Bongila, vous êtes prêtre, vous connaissez très bien la sociologie des religions. Quelle est la considération que la société américaine donne, par exemple, aux évangéliques, aux protestants, aux catholiques, aux juifs, aux musulmans et aux mormons?
Bien, la considération, d'abord, on venait de l'Afrique où vous avez 67% par exemple des catholiques. Vous arrivez ici, les catholiques sont minoritaires, ça frappe un peu. Et automatiquement, vous remarquez que la considération qu'on donne à toutes ces religions-là peut être la même. Ça signifie que vous êtes 20% des catholiques, vous avez 40% des évangéliques dans ce pays ici. Mais ça dépend, donc la société se veut laïque, le gouvernement se veut laïque. Donc, ça dépend de ce que vous faites. Supposons que votre devise ou ce que vous voulez faire, c'est d'aider l'humanité, d'aider par exemple les écoles, d'aider les gens qui sont là sans logis, et c'est cela que vous faites, le gouvernement vous appuie en fonction de ce que vous faites. Le gouvernement ne vous appuie pas nécessairement en fonction de votre religion ou en fonction de l'œuvre pastorale. Non, je ne dirais pas l'œuvre, parce que ce que vous accomplissez, ça peut être l'œuvre pastorale, si vous travaillez dans des écoles, dans des universités. Mais on vous aide pas en fonction de votre ministère, mais en fonction des œuvres sociales que vous êtes capable de produire et de votre contribution dans la société. Donc, je me dis, pour répondre à votre question, que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, que vous soyez mormon, et vous êtes le gouvernement fédéral, vous prend sur le même échiquier. Donc, ça dépendra de votre influence dans la société. Et j'aimerais aussi que ça soit maintenu de cette manière-là, que toutes les religions se retrouvent dans ce pays-ci et que le gouvernement soit, comme on dit, à mesure d'aider les religions en fonction de ce qu'elles font.
Ambassadeur Cohen?
Je crois qu'on peut dire aux États-Unis, il n'y a pas de la haine pour des groupements religieux aux États-Unis. Et une grande tolérance, n'est-ce pas, même pour des groupements un peu bizarres, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'importance démocratique aux États-Unis, qu'on peut croire dans n'importe quelle religion et en même temps, on peut réussir dans la politique ou dans les affaires, etc. Votre religion n'est pas importante pour ça. Avec l'exception, les athées ne peuvent pas réussir dans la politique. Mais à part ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité.
Ambassadeur Cohen, un président des États-Unis, quand ils prêtent serment, c'est sur la Bible. Qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie qu'au fond, la société américaine est une société religieuse. C'est-à-dire, on a plus confiance dans un politicien qui va à l'église tous les dimanches, ou presque tous les dimanches, ou pour un juif qui va aux synagogues les samedis. Ça ne veut pas dire que la politique qu'il suit est tout à fait parfaite, mais le fait qu'il croit en Dieu, c'est ça qui compte dans l'esprit des Américains. Quelqu'un qui croit en Dieu et qui pratique même un minimum, les gens ont confiance en lui. Après, on peut discuter les autres sujets. À mon avis, l'élément religieux est en baisse dans la politique des États-Unis et l'élément économique est en hausse. Les gens, comme le professeur a dit, les gens cherchent du travail juste des carrières, n'est-ce pas? Et surtout pour les femmes, l'élément d'argent. Est-ce qu'on peut avoir une famille? Est-ce qu'il y a assez d'argent pour donner la nourriture? C'est ça qui compte de plus en plus maintenant. Et là, à mon avis, la religion est en baisse, surtout pour la jeunesse qui est en train de monter.
Vous voulez dire que même s'il prête serment sur la Bible, ça ne signifie pas qu'il est guidé par la Bible dans ses actions?
Non, dans son mandat. C'est une tradition. Si vous prêtez serment sur la Bible, vous donnez confiance aux Américains que vous n'êtes pas mieux, vous êtes le même que tous les autres Américains. Vous croyez en Dieu, c'est ça. Mais toutes les autres choses sont moins importantes.
Il y a un rapport qui est sorti par le département d'État chaque année sur la liberté religieuse dans le monde. Ce n'est pas dicté par le fait qu'un président en exercice est religieux ou pas, c'est une tradition.
Ça, c'est une loi. Le Congrès, je crois qu'il y a 20 ans, a fait passer une loi pour obliger les départements d'État de faire un rapport. C'est-à-dire à cause de certains pays où il y avait la discrimination contre certaines religions, le Congrès a cru et croit aujourd'hui qu'il faut faire de la publicité. S'il y a de la discrimination, il faut dire ça à tout le monde. Peut-être les gens auront honte de faire un peu stopper ça.
Professeur Bangila, quel est le sens que vous donnez à cet acte, le fait de prêter serment sur la Bible?
Je pense que quand George Washington l'avait fait au début, il y croyait sérieusement qu'en Dieu nous croyons. Et d'ailleurs, nous voyons ça sur la monnaie américaine, In God We Trust. Foncièrement, l'Américain, dès des origines, aura été un croyant en Dieu. Mais au fur et à mesure, nous avons remarqué que la prestation de serment sur la Bible n'est devenue que quelque chose de symbolique ou quelque chose de culturel. Parce que maintenant, quelqu'un peut, un candidat peut même refuser de prêter serment sur la Bible ou sur n'importe quelle écriture sacrée. Nous avons vu, par exemple, dans le Minnesota ici, Kit Allison, elle n'avait pas prêté serment sur la Bible, mais il a plutôt préféré le Coran d'après sa religion. Donc, ça signifie qu'au fur et à mesure, nous sommes en train de prendre une certaine distance vis-à-vis de la signification originale de la prestation de serment sur la Bible. Donc, on prête serment, mais c'est quelque chose de plus symbolique maintenant, de culturel. Mais je crois que l'ambassadeur avait raison quand il a dit que le candidat qui croit en Dieu, qui croit en un être suprême, c'est un candidat qui a beaucoup plus de valeur vis-à-vis de la population. Et il y en a qui font ça, pas de façon tout à fait honnête, mais qui se disent « Ok, si au moins j'apparais être religieux, j'aurai suffisamment de votes, les gens vont me faire confiance. » Mais il y en a qui y croient sérieusement. Ça sera difficile d'extirper le rôle de Dieu dans la population, dans la mentalité américaine. Il est toujours là. L'ambassadeur a dit effectivement, plus en plus nous voyons une certaine croissance de la laïcité, surtout auprès de la jeunesse, qui veulent ne pas adhérer à la religion de leurs parents et qui pensent qu'il vaut mieux essayer quelque chose d'autre, et qui pensent que c'est suffisant d'être, comme ils disent, Nunes, être sans religion ou agnostique. Il y en a qui sont en train de tenter ça. Et nous voyons que la religion, par exemple, du côté catholique, il y a eu une certaine perte de la population, et même les évangéliques sont en train de perdre. Ça, c'est le futur que nous sommes en train de voir émerger. Mais, pour concrètement répondre à votre question, le symbolisme, là, est important. Même si prêter serment sur la Bible n'est qu'un symbole pour l'instant où elle représente simplement un aspect culturel, mais le fait que, à partir de ses origines, l'Américain a toujours cru en Dieu et je pense que cette croyance-là continue à exister et il sera difficile de l'extirper de la population américaine. Nous ne voulons pas d'ailleurs que ce soit extirpé. Nous voulons que cette croyance en Dieu demeure.
Oui, vous venez de souligner justement cette devise qui proclame « In God we trust » et qu'on retrouve sur la monnaie. Partout dans le monde, quand on a le billet vert, on a aussi le sourire aux lèvres. Est-ce que ça a une relation, professeur?
Ça a une relation superficielle. C'est la paix que tu as parce que tu as un peu d'argent, la paix que tu as parce que tu es avec Dieu. Mais en réalité, ça devait être le contraire. Ça signifie que nous utilisons l'argent comme c'était juste pour un service. Mais le plus important pour ceux qui croient, c'est Dieu qui vous donne tout ça. Il y a une certaine relation, mais quand vous parlez de la supériorité, vous n'allez tout de même pas comparer un Godwin Trust qui est sur l'argent et le vrai Dieu en qui nous faisons confiance. Mais ça veut dire que, ça c'est mon interprétation, ça veut dire que si vous avez ça sur le billet vert, ça signifie que c'est Dieu qui vous pourvoit de ce que vous avez là. Donc, vous croyez que Dieu va continuer à pourvoir. C'est un peu ça, mais il n'y a pas une hiérarchie à établir entre Dieu et l'argent. Ça ne marche pas parce que l'argent, bon, si vous voulez l'utiliser, simplement, mais vous savez qu'il y a une certaine origine qui est plus foncière que l'argent. C'est Dieu qui vous donne cet argent-là et vous pouvez vivre heureux sans avoir suffisamment d'argent. Donc, il n'y a pas une hiérarchie à établir.
Ambassadeur Cohen, est-ce que ça signifie qu'on est béni chaque fois qu'on reçoit le billet vert, on remercie le bon Dieu?
Oui, on peut dire ça. Mais je voudrais dire une chose. Pour réussir dans la politique, il faut être comme tous les autres gens. C'est-à-dire, vous croyez en Dieu. Et de temps en temps, vous allez à l'église. Mais je connais des gens, même des gens que je vois à la télé, qui disent « Je suis athée et j'en suis fier ». Il y a un humoriste tous les vendredis soirs qui s'appelle M. Maher. Et il dit, je suis athée. Et il est applaudi. Mais il ne peut pas être candidat à la présidence. Il ne peut pas. Il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas traverser. Il faut être croyant dans une religion, n'importe quelle. Mais on ne peut pas être athée aux États-Unis et réussir dans la politique.
Mais il peut avoir des téléspectateurs croyants.
Bien sûr. Il peut gagner beaucoup d'argent.
Ambassadeur, est-ce que vous vous rappelez d'une période où la religion a beaucoup pesé?
Oui, mais ça date des premiers jours des États-Unis. Par exemple, à Massachusetts, il y a des gens qui sont venus d'Angleterre parce qu'il y avait la discrimination contre eux, parce que leur chrétienté était différente, etc. Et même chez eux, il y avait un autre groupement qui n'était pas confortable, donc ils ont formé un autre État. Juste à côté de l'État de Massachusetts, il y a l'État qui s'appelle Rhode Island. Ils ont dit, notre religion n'est pas la même, donc nous allons former notre autre État. Et la même chose, les Mormons sont traversés tous les États-Unis pour être seuls. Quand ils étaient dans l'État de Illinois, au centre des États-Unis, beaucoup de discrimination contre eux, donc ils sont allés dans leur wagon avec des chevaux et sont allés jusqu'à Utah. Et ils ont trouvé des montagnes très belles et ils ont dit, bon, nous allons nous établir ici. Donc il y a pas mal d'endroits aux États-Unis où le développement économique a commencé à cause des groupements religieux qui sont allés pour échapper à d'autres gens.
Professeur?
Les groupements, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont formés pour défendre leur religion, mais le fait que nous avons dit ensemble avec l'ambassadeur, pourquoi est-ce qu'il faut une dose de religiosité pour que les gens en croient en un politicien? C'est qu'il y a des idéaux éthiques ou moraux que l'Américain vraiment maintient. Ces idéaux-là sont très importants pour un Américain et en pensant que quelqu'un croit en Dieu, la religion est un grand support pour ce qui est de la moralité, ou ce qui est de l'éthique. Ça serait difficile, même si les athées il y en a qui sont éthiques, qui ont des idéaux éthiques et moraux, mais la religion vous permet en fait d'avoir ces idéaux-là parce que Dieu vous dit, vous ne devez pas faire ceci, il y a le bien à faire et le mal à éviter. Dieu vous dit ça et vous y croyez. Donc l'Américain sait que ces idéaux-là sont importants, non seulement pour la famille, mais aussi pour la grande famille qui est le pays. Alors un candidat qui se présente avec une certaine religiosité, une croyance en un être cher que nous appelons éventuellement Dieu, donc c'est quelqu'un qui vient avec ces idéaux-là et nous pensons automatiquement que c'est une personne qui fera en sorte que les gens vivent bien, qui comprend que l'amour est important, qui comprend que l'altruisme est important, que la vérité c'est quelque chose d'important, l'authenticité, qui vient déjà avec une certaine dose de valeur. Et c'est normal que les Américains appuient ce genre de candidat parce qu'il y a une croyance en quelque chose de supérieur que ce que nous voyons sur Terre. Donc, ce n'est pas pour rien que certains groupes religieux qui ont pensé qu'ils étaient amoindris vis-à-vis de leurs croyances se sont soustraits du grand groupe chrétien calviniste pour aller former leur propre groupe pour maintenir ces valeurs-là. Ce sont ces valeurs-là qui sont les plus importantes, mais en général, nous savons qu'il y a des valeurs qui sont presque universelles en termes de religion. Et donc l'Amérique est en train de chercher cela, même si on ne le dit pas clairement, même si on dit non, il y a une séparation entre l'État et la religion, mais foncièrement, nous savons que l'Amérique est religieux et va chercher à avoir ces valeurs-là dans n'importe quel candidat politique.
Vous êtes politicien, vous êtes républicain aussi. Est-ce qu'il y a-t-il des stratégies qui sont chaque fois actualisées pour pouvoir remporter le maximum de voix possible au sein de cet électorat?
Oui, toujours, toujours. Si vous regardez dans la plateforme des partis politiques, vous allez voir les paragraphes qui disent qu'il faut soutenir la religion, il faut aider les écoles religieuses, n'est-ce pas? Il faut protéger les religions. Les politiciens cherchent toujours des voix des Américains qui croient dans la religion, et les deux partis politiques font la même chose. Il ne faut pas être un parti d'une religion, d'un groupement religieux, mais il faut montrer que vous appuyez la grande majorité des Américains qui croient en Dieu et qui disent « Moi, je suis catholique, moi, je suis protestant, moi, je suis juif, moi, je suis musulman. » Et ils sont fiers d'être. Donc, il faut appuyer ces gens-là dans leur fierté.
Est-ce que les différentes alternances que le pays a connues, est-ce que la même logique a été vérifiée au finish?
Oui, je crois que comme les deux partis politiques appuient les religions, ça neutralise un peu la religion dans les campagnes électorales, avec certaines exceptions. Dans la campagne de 2016, où Donald Trump a gagné, les évangiles ont décidé de soutenir Donald Trump. Pourquoi? Il a dit « Je suis contre l'avortement ». Tous ces politiciens à Washington maintenant, surtout Obama, c'est-à-dire, sans le dire, « Je suis raciste ». Certains gens dans certaines églises ont dit « Oui, nous sommes pour lui ». Nous sommes pour lui parce que...
Et surtout avec le choix de Mike Pence comme...
C'est ça. Et il faut le dire, il y a certains groupements dans la religion qui sont racistes aussi, n'est-ce pas? L'église protestante dans le sud des États-Unis, ils avaient des esclaves, n'est-ce pas? Jusqu'en 1860. Et entre 1860 et 1956, quand le président Johnson a fait passer des lois anti-discrimination, il y avait la ségrégation. Les Noirs ne pouvaient pas entrer dans les restaurants, etc. Donc, il y a un élément dans certains esprits racistes. Et M. Trump a joué là-dessus. Les évangiles ont dit, oh, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas racistes, mais nous sommes pour Trump. Pourquoi? Parce qu'il est contre l'avortement. Mais dans l'esprit de certains de ces gens-là, qui surtout dans le sud des États-Unis, ils n'aimaient pas l'idée qu'il y a un Noir américain qui puisse être président.
Professeur Bongila?
Oui, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de l'ambassadeur, surtout pour ce qu'il a dit là, parce que je me dirais que c'est un peu difficile pour un républicain, un politicien blanc et peut-être évangélique de maintenir que ça aura été difficile pour les évangéliques de soutenir quelqu'un comme Obama, surtout un noir, que ça leur faisait certains problèmes de voir qu'un noir sortait de la Maison Blanche, et je l'applaudis d'avoir dit ça ouvertement parce que c'est quelque chose auquel nous pensons assez tacitement, mais qu'il ait dit comme ça, et ça c'est vrai qu'il y en a qui ont appuyé Trump jusqu'à ce point simplement parce qu'il y avait des soubassements racistes, et ça c'était pénible pour eux de voir qu'un noir qui il y a quelques années encore était esclave pouvait sortir de la Maison Blanche. Effectivement, ces enjeux-là vont continuer pendant assez longtemps. Les enjeux, tous les 8 ans, il y a un changement de politique, changement de le président, ou ça passe peut-être des républicains aux démocrates et tout ça, mais la religion est toujours là. Parce que ça va même à la source des États-Unis, comme nous l'avons dit. Mais il y a deux auteurs qui ont vraiment influencé cette... la religiosité aux États-Unis, quand ils ont dit, je parle par exemple d'Alexis Tocqueville, qui dans ses écrits a mis en exergue le fait que la religion, particulièrement la religion chrétienne, était à la source de la démocratie américaine. Alexis de Tocqueville, ça c'est quelqu'un qui a été lu et relu par beaucoup d'Américains, et à certains égards, ses écrits sont comme paroles bibliques. Donc, il est à l'origine même de la pensée, de certaines pensées américaines. Et quand il dit quelque chose de pareil, que la religion est à l'origine même de la démocratie américaine, ça se maintient encore. Et je citerai aussi, par exemple, Max Weber, qui lui a établi un lien entre le capitalisme américain et la religion chrétienne. Ça, ce sont des grands écrivains que les Américains tiennent pour modèle.
Et il y a aussi Émile Durkheim.
Absolument, Émile Durkheim, oui. Donc, tous ces gens-là ont maintenu le fait qu'il y a une certaine tension bienveillante entre la religion et la politique aux États-Unis. Cette tension-là va durer pendant très longtemps. Pendant très longtemps, les candidats à la politique devront s'appuyer sur des voix des religieux, de ceux-là qui croient en Dieu, pour être hissés à la position souveraine dans ce pays-ci. Donc la tension politique, c'est une tension politique religion, elle est là comme tension, mais c'est une tension bonne. Et ça fait qu'il y a cet impact-là toujours, et ça, c'est ça qui fait que les gens, si vous ne prêtez pas attention à la religion, vous ne serez jamais à la tête du pays.
Nos auditeurs qui nous écoutent depuis le continent africain, quelles leçons tirer de cet enjeu religieux aux États-Unis? Ambassadeur Cohen, je commence par vous.
Oh, je crois que selon mon expérience, j'ai passé 12 ans en Afrique comme diplomate. À mon avis, les Africains sont plus forts dans leur religion que les Américains. Je vois les catholiques au Nigeria, par exemple. Ils sont très, très forts. Et c'est comme les évangéliques aux États-Unis. Ils poussent beaucoup et demandent les gens de devenir catholiques. Et les musulmans en Afrique de l'Ouest, ils sont très forts. Et je dois dire que les musulmans que j'ai rencontrés au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, sont des gens très tolérants. À Noël, les musulmans du Sénégal ont mis des arbres de Noël en plein centre-ville. À mon avis, les Africains sont plus forts dans leur religion que les Américains.
Professeur Bongila, est-ce que la religion pèse beaucoup dans les élections aux États-Unis qu'en Afrique, ou c'est nuancé?
Je parie que c'est nuancé, mais comme le professeur Lorik Hannington le disait, il a écrit un livre, L'histoire religieuse des États-Unis. Il dit que pour lui, l'exceptionnalité des États-Unis repose sur le fait qu'il y a une bonne cohabitation entre le politique et le religieux et la religion. Et ça, c'est important. Ça signifie justement que la religion pèse énormément dans le choix politique aux États-Unis. Ça peut peser aussi peut-être en Afrique, mais ici nous avons des institutions qui sont sérieusement solides, qui font en sorte que les frontières sont bien respectées. Ce serait difficile qu'on arrive à une guerre religieuse, de religion, même si de temps en temps nous avons eu les candidats qui peuvent avoir poussé vers ça. Mais une guerre de religion serait assez difficile à avoir aux États-Unis. Ça signifie qu'il y a une bonne cohabitation entre le politique et le religieux. Mais quand vous parlez de l'Afrique, oui, c'est vrai que les Africains sont pour la plupart très religieux, mais ils sont très morcelés aussi. Les politiciens vont s'appuyer sur leur religion peut-être, mais ça sera au détriment des autres religions. C'est pour ça que vous prenez l'exemple du Nigeria, le nord est musulman et le sud est presque chrétien, mais vous avez des tensions, il y a des enlèvements et ceci. Vous allez à la République centrafricaine, c'est pratiquement la même chose. Vous allez dans beaucoup de pays où il y a cette tension-là. Et les politiciens, justement, voudraient en Afrique nourrir cette tension-là, surtout s'ils sont d'une obédience religieuse assez majoritaire, en matant les minoritaires religieuses pour qu'éventuellement ils avancent dans leur position. Ils savent qu'ils ont un soutien d'une grande partie de la population. Et c'est comme ça. Donc ils s'appuient sur la religion, pas nécessairement de manière à vouloir que le pays avance, mais c'est plutôt de manière à vouloir asseoir leur pouvoir. Donc, j'aime bien cette tension-là de la politique aux États-Unis, politique et religion aux États-Unis, dans le respect mutuel et aussi dans la tolérance mutuelle, plutôt que utiliser la religion comme une plateforme pour mater les autres religions qui sont minoritaires, comme ça se fait parfois ou souvent en Afrique.
Nous arrivons au terme de cette émission de Dialogue des religions. Merci beaucoup à l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Merci, ambassadeur.
Je vous en prie. Plaisir pour moi.
Merci au professeur Jean-Pierre Bongila qui se trouve dans le Minnesota. Merci beaucoup.
Eric.
Eric Manirakis a été avec vous. Lionel Ronanela Gahima a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.